fois le fourri, c'est apaisant, la rivière. Puisqu'une personne, c'est une jeune fille, au début, même si j'ai repris le voyage en mer, et qui après, bon, bah, conséquent. Ça a été une compagne pour moi, même si je cite très souvent Francis Monge, qui a horreur de cette façon de personnaliser les rivières et les fleuves. Il ne peut pas supporter ce type de littérature. Je suis tombé total, je cite souvent, j'ai succombé à cette faveur.
Et les auteurs aussi, à Chalon, il y a Pierre Dac et Camus. Sinon, il y a Simenon, donc il n'est pas là, mais il fait comme vous un périple sur le canal de la Maracérame et sur un bateau pour découvrir le pays, son nouveau pays, puisque il est en France. Et là, vous parlez de décor sur certains de ses romans.
Oui, l'inspiration de Simenon, on voit beaucoup au canal. Le canal, c'est vraiment, ça appartient à l'univers simonien. Il ne s'intéresse pas du tout à la rivière. Et il y a le côté droit, le côté un peu immobile. Et en effet, il est parti en 1929-1930, il est parti en bateau depuis la Hollande. Et il est allé jusqu'au Rhône. Et un des premiers maigres se déroule Le Loup de la Barbe de Chartier de la Providence, qui est un très, très beau roman. Il y pleut tout le temps dans ce roman, il y a la pluie, puis il y a cette lumière propre à Simenon. J'en ai beaucoup parlé de cette rivière, de cette lumière très étrange que diffuse la Marne. Un mot que je ne connaissais pas, qui s'appelle la Rambleur. C'est quelqu'un qui me révèle ce mot. À Chalon, et c'est un mot qui m'a beaucoup obsédé, qui symboliserait peut-être ce livre, la part insaisissable, hein, quelque chose. Là aussi, on est dans le renversement. Donc, pour revenir à Simenon, le Chartier de la Providence se déroule entre Tizi, c'est-à-dire entre Épernay en gros, et puis Vitry-le-François, c'est le monde des mariniers. Mais je l'ai fait ça aussi par la suite. Après ce voyage, j'ai voulu approfondir ma vision de... pas de la rivière, parce que la rivière est à côté, quelquefois on la perd de vue, mais ça n'a absolument rien à voir. Les gens tournent le dos à la mare, à part quelques pêcheurs, à part quelques amateurs de canoë-kayak, il n'y a personne. Et puis c'est difficile de la suivre. Tandis que le canal, c'est le domaine des cyclistes, des joggeurs, c'est la ligne droite, c'est facile, il y a un petit chemin goudronné, tandis que le chemin de la nage le long de la Marne, c'est beaucoup plus difficile. Et surtout, la Marne est privée, relève du domaine privé à partir de Saint-Dizier. De Saint-Dizier jusqu'aux sources de la Marne à Baleine, c'est très difficile de suivre son cours. Il y a le canal qui épouse un peu sa sinuosité, mais c'est très difficile. Les propriétaires ne sont absolument pas astreints à ce chemin, à ce qu'on appelle la certitude de marchepied aussi.
Et à la source, à l'ombre, c'est l'inatteinte de l'hydro aussi.
J'en ai pas parlé.
Non, mais vous l'évoquez dans le livre, il y a l'école de cinéma, le baron de l'Écluse avec Jean Calvin, le gitan avec Alain Delon, et là il y a quelqu'un dont vous parlez, mais qui n'est absolument pas connu, mais qui est très important pour vous, c'est Jules Blin. Qui est Jules Blin?
Jules Blin, ça fait partie aussi des raisons qui m'ont incité à faire ce voyage. Il y en a une autre encore, mais bon. Jules Blin, c'est un combattant de la Grande Guerre, qui a écrit un livre que j'ai découvert à compte d'auteur dans un vide-grenier et que je je n'ai pas fait attention à ce texte-là, et c'est quelqu'un qui a fait un peu comme toi, une sorte de héritage. Lui, il a remonté la Marne, il s'est arrêté dans tous ces endroits qu'il avait connus, notamment pendant la contre-offensive de la Marne, entre le 6 septembre et le 10 septembre 1914, il va jusqu'à Saint-Dizier. Et ce qui est amusant, c'est qu'il a probablement rencontré André Breton. Parce qu'André Breton est resté 6 mois à Saint-Dizier. Breton soignait tous ces combattants qui étaient totalement semés par le carnage de Verdun. Donc on les acheminait à l'hôpital psychiatrique de Saint-Dizier. Et Jubelin est passé, il ne dit pas exactement, alors qu'il faisait partie de ces gens qui avaient été traumatisé, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est là où Breton a eu la révélation de Freud, c'est là où Freud n'était absolument pas connu. L'inconscient est très important dans la création du surréalisme. Je ne vais pas parler non plus d'une autre raison, enfin, puisque j'y fais allusion dans mon livre. Il est évident que le fait d'avoir été privé de ce pays que j'aime pendant 3 années, et ça a été une manière aussi de parler du sentiment d'exil lorsqu'on est prisonnier. Parce que quand on est prisonnier, bien sûr, quand on est otage, surtout toujours cette hantise de l'exécution, quoi. C'est quand même la finalité de l'otage. Et, mais en même temps, il y a, vous avez vu, vous avez perdu tout bien charnel avec votre pays, avec la langue, avec un certain nombre d'habitudes. Donc il y a un sentiment d'exil qui est très fort. Et ça a été aussi pour moi, je l'avoue, une façon de parler de ce pays dont j'avais été privé pendant 3 années.
C'est pour ça que vous dites à un moment que vous devez quelque chose de passé.
Oui,
je suis en train de chercher la phrase exacte. Vous dites à c'est notre ami Jeanne, la sculpture.
Ah oui, tout intéressant. Je
pense à l'instant passé, je pense à l'avenir.
Non, au présent.
Au passé, je pense au présent. Je cherche une phrase exacte, justement.
Oui, oui, celle de t'intéresser au passé. Intéresse-toi au présent. Mais c'est vrai, quand j'ai fait ce livre, il y avait une tentation, en effet, de parler, et d'aller voir les musées, toutes ces choses-là. Et j'ai essayé de freiner à bord quand même cette pente. Et j'ai préféré parler du présent. Mais on ne peut parler du présent que si l'on est adossé au passé. Hein. Je dis un moment. Que je me sens parfois intoxiqué par la France, en état de dépendance physique, psychique. Cette France, intoxiqué par son histoire, par ses paysages, par sa culture, etc. Il y a une sorte... Je me sens parfois presque harcelé par ces... Vous voyez, il y a presque une intimation. Elle est regardée toujours vers le passé. Et je parle beaucoup, évidemment, de j'évoque Michel, j'évoque Fernand Braudel, Marc Bloch. Je cite beaucoup Marc Bloch, justement, par rapport au mourir pour la patrie, ce que ça veut dire aujourd'hui. Il a une très belle page, non pas dans son livre L'étrange défaite, qui relate la guerre de 1940, mais lorsqu'il était combattant, lors de la Première Guerre mondiale, il a participé, Marc Bloch, à la première bataille de la Marne, et il y a une très belle chose qu'il écrit sur l'identité française, bien sûr, sur aussi mourir pour la patrie, et pourquoi on y va, quoi, quand on est soldat, avec le sentiment de peur, je dis que l'amour de la patrie, ça compte très peu, c'est le point de l'honneur, c'est la fidélité. on dit là, on tient, et ces gens vont tenir pendant 4 années, parce que c'est par rapport aux autres, par rapport aux copains. Hein, la fidélité aux camarades, c'est très belle page qui écrit. Il était là, pour à côté du fils de François, il entendait le bruit des canons autour de Vitry François, qui vont au Morel. Je conseille vraiment de lire ces pages sur la première guerre de Marc Le Bloch.
Des questions?
Pour écrire ce livre, il n'aurait pas été otage. Est-ce que votre cheminement
personnel, justement,
vous
avez fait
beaucoup de choses?
Oui.
Vous avez dit que
c'était un petit
journaliste
avant.
Oh,
j'étais toujours un peu attitude.
Ah, déjà,
je sais. Oui, si. Je tiens un petit peu dans mon livre. C'est vrai que j'étais un journaliste qui s'intéressait que à la politique. C'est quand même un peu. C'est souvent une question qu'on me pose, d'abord est-ce que j'aurais écrit des livres, parce que je me suis mis à écrire des livres sur le tard. Le premier livre que j'ai écrit, l'article d'Hélène, j'avais 49 ans, je crois, donc quand même c'est sur le tard, je ne sais pas, le fait d'avoir été, comme je l'ai dit souvent, d'avoir été privé pendant très longtemps de crayons, je ne pouvais pas écrire pendant cette période-là. Il y avait un trop plein qu'il a fallu délester. Auparavant, je commençais des livres, je n'avais rien à dire, j'étais un débiteur de l'écriture, mais je ne peux pas répondre à cette question, je n'en sais rien. Peut-être que je me serais mis à écrire aussi sur le tard. En tout cas, celui-là, il est certain que. Il est lié à cet épisode-là.
Quand vous avez évoqué Colombet de Tréguy, est-ce que c'est pas le sujet du livre là-bas? Est-ce que vous parlez de Gérard de Gaulle?
Ah oui, je parle bien sûr de Gérard de Gaulle, enfin, un petit peu, puisque quand il venait de Paris, il se posait sur l'aéroport de Saint-Dizier, puis après, il part. On venait chercher en voiture, il allait à Colombes. Et puis, celle-ci a joué un rôle important en mai 68. Hein, c'est là où il a fait escale pour aller vers Baden-Baden. On ne savait pas, c'était le bord de cette journée, je crois que c'est le 28 mai 1968, là, qui a créé cette incertitude qui a été décisive. Où j'en parle un peu.
Il me semble que lorsque François Mitterrand, s'est enfui du camp de concentration, il a donc traversé le site du Paris-Berlin et il avait refait son trajet avec les membranes à un moment donné.
Ah bon, ça je l'ignorais.
Vous avez le petit livre de M. Attali sur Mitterrand dans la collection Calimard, découverte qui en parle.
Ah, je l'ignorais. Peut-être que vous n'avez pas entendu madame me dire que François Mitterrand, lorsqu'il s'est échappé en 41, 42, je ne sais
plus.
Pardon,
du camp de concentration.
Voilà, c'est ça. Donc, lorsqu'il est arrivé en France, il a remonté la marque et il l'aurait remonté avec. Mais c'est sûr, avec lui, monte.
Non, c'est-à-dire qu'il est passé par là. Et comme il était très ami avec les femmes, ils ont refait ensemble tout le trajet que François Mitterrand avait fait.
Ah oui, bah vous voyez, ça m'a échappé. Oh, il y a beaucoup de choses qui ont été intéressantes de mentionner.
Bah, j'ai affaire, M. Korfman.
Ah bah oui. Je ne peux pas se remonter la marbre ou deux comme la vie ou la. Et si je pensais. Vous l'avez évoqué au début parce que effectivement c'est important. Pour rappeler que vous avez créé l'amateur de Bordeaux, il y a l'amateur de cigarette puisque c'était votre récompense souvent en soirée. Mais effectivement, forcément, vous parcourez la Champagne et vous dites que ça a été à un moment le rituel, à un moment où vous demandez même s'il ne faut pas vous mettre au régime sec, etc. pour pouvoir poursuivre tout le périple. Et alors, Chambal est un pays janséniste, donc c'est très sérieux. Et vous dites à un moment, en fait, que le Chambal, contrairement à ce qu'on pense, c'est un vin austère, et que les Russes font illusion, et que finalement, il y a beaucoup de raideur et d'intransigeance dans ce vin.
Oui, alors ça, c'est aussi un aspect.
Je parle beaucoup du janséisme dans ce livre, d'une part parce que c'est une doctrine qui a marqué durablement Dom Pérignon.
Oui, alors Dom Pérignon, j'y viendrai.
Et au-delà de Dom Pérignon, le janséisme a un rôle très important, notamment dans le déclenchement de la Révolution française. On oublie souvent que l'abbé Grégoire était un janséiste. Donc le janséiste. Le paradoxe, c'est justement de savoir que le champagne, symbole de la fête, a été inventé. Enfin, celui qui a joué le rôle le plus important, c'est Dom Pérignon, que vous connaissez. Et Dom Pérignon était une figure du jansénisme champenois, la ville où il était enterré, qui était un haut lieu du jansénisme. Dans cette partie du club, j'en fais pas tous ces villages, il y a quelque chose en effet de janséniste, une espèce de dégoûtant, une sorte de dégoûtant, de raideur, d'austérité. Et pour le champagne, en effet, l'assemblage, avant l'effervescence, c'est un vin très, très austère, le vin clair. C'est un vin raide, presque imbuvable, et par la magie, par le renversement, par la grâce de l'assemblage et de l'effervescence, eh bien, on va avoir ce miracle qui est ce vin de la passage. Et celui qui a mis au point cette chose qui est la plus importante pour le champagne, c'est pas la bulle, c'est l'assemblage, la capacité, l'aptitude à faire un champagne avec des vins de provenance différentes. La partie ne doit pas se prendre pour le tout. Et c'est ça le janséisme joue un rôle important. Enfin, je le mentionne très très souvent. Il y a des habits, il y a la petite fontaine au lieu du janséisme que je mentionne, qui est au bord de la Marne. Oui, la grâce, encore une fois, ce livre est sous l'invocation de la grâce, et la grâce est aussi ce renversement de situation qui joue pour le champagne aussi.
Oui. Je voulais vous demander, est-ce qu'il y a un rapport entre votre livre et celui de Jean-Christophe Bailly, Le dépaysement, et par extension, comment est-ce que vous expliquez qu'il y a de plus en plus d'ouvrages qui sont en quelque sorte des arpentages du territoire français?
Alors, oui, le dépaysement, alors lui, lui, il n'a pas fait parler le corps, hein, c'est un voyage qui est beaucoup plus sérieux que moi, qu'il a approfondi, c'est la France dans son ensemble. Moi, je suis quitté. Je ne suis limité qu'à la rivière La Marne. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de livres, vous avez raison, il y en a un que je vais lire là bientôt, qui s'appelle La fin du village, là, d'un sociologue qui s'appelle, sur un village provençal, Jean-Pierre Le Goff, La fin du village. Oui, alors c'est ça qui est intéressant. Il y a cette tendance aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est synonyme de repli? Je n'espère pas. Ça ressemble à ces voyages de retour que les ethnologues font après avoir parcouru le vaste monde, qui reviennent chez eux pour sculpter la société où ils sont nés, enfin le pays où ils sont nés. Et il y a une tendance, en effet, très forte à l'heure actuelle. À quoi ça correspond, je l'ignore.
À votre ressource.
À votre ressource. qui savent comment s'est constitué l'importance des rivières, l'importance des bassins de fluvion. Je ne sais pas, il y a 30 ans, il y avait très peu de. Je me souviens, dans les années 80, il y avait un livre de Renaud Camus, Journal d'un voyage, qui était assez hard, Journal d'un voyage en France. Et il racontait un périple à travers ce pays. Bon, il y a le livre de Jacques Lacarrière. Moi, je me sens un peu sous la.
Il a plutôt mal tourné.
Peut-être aussi sous l'invocation de Jacques Lacarrière, et peut-être aussi, alors là c'est peut-être prétentieux, aussi sous l'invocation de photographes de Milan, dont je parle, photographes et puis aussi, que, je ne sais pas si vous avez vu cette exposition de Raymond de Pardon sur la France. Hein, vous voyez ce côté à la fois immuable et l'esthète de l'esprit là. La petite chose, la petite fêlure, le trembler, c'est ça que j'ai essayé de décrire dans mon livre. C'est la France des cafés, la France des salons de coiffure qui résistent.
C'est un peu nostalgique, non,
la France des charcuteries.
C'est un peu nostalgique tout ça.
Non, justement. Alors si c'est mon lit, c'est un sentiment que je déteste la nostalgie. Ça n'est pas passé sous le signe de la nostalgie, ce qui voit. Je dis que la nostalgie, c'est une passion triste. Et j'aime le passé, mais pas la nostalgie. La nostalgie, d'abord, c'est un mot aussi qu'on met à toutes les sauces. Vous voyez, c'est une sorte de. De papier gras qui a traîné un peu partout. Et là, dès qu'on parle du passé, c'est la nostalgie, le regret. Moi, mon livre n'est absolument pas sous le signe du regret. Enfin, je l'espère, je ne l'ai pas écrit dans cet esprit-là, en tout cas.
Écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là-dessus, puisque je pense que la rencontre va continuer sous forme de signature et de discussion avec vous. Mais remonter la marque, c'est effectivement, promenez-vous, faites le périple avec Jean-Paul Hoffmann, ce sont des rencontres, des gens, des personnages, qui parlent de cité cuisier, qui vous a prêté sa caravane électrique, vous avez chapardé une pomme. Il y a plein de choses là-dedans, c'est extraordinaire, c'est sur les paysages, les auteurs. Jean-Paul Hoffmann, remontez la larme, va continuer la discussion avec vous. Merci beaucoup.